PCP.
Public enemy number one is drug abuse.
Drugs are menacing our society.
Drugs are bad, okay? They're dying
because of poverty,
right?
Cruel economic
policies. Bonjour et bienvenue au podcast de Cinéma Politica avec Marie-Luce et Simon. Aujourd'hui au menu, Scarlet Road, notre prochain film, et un retour sur Weeble's War.
Alors, notre prochaine présentation et notre dernière de la saison aura lieu le lundi prochain, le 14 avril, à 19h à l'Amphithéâtre Vidéo-Québec. Notez que ce n'est pas notre local habituel, c'est celui au pavillon Alphonse Desjardins.
Alors, Scarlet Road est un film réalisé en 2012 par Catherine Scott. On vous le présentera en version originale avec sous-titres français. Un bref résumé. En fait, le film porte sur Rachel, une travailleuse du sexe australienne et militante pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Elle milite aussi pour les droits des personnes handicapées, une clientèle souvent négligée auprès de laquelle elle s'est spécialisée. La réalisatrice, elle s'est rendue compte que beaucoup de personnes tiennent pour acquis ce que les handicapés n'ont pas souvent accès, notamment le fait de se réveiller à côté de quelqu'un. Donc le service a une fonction humanisante.
Pour les personnes qui sont souvent considérées comme des enfants, surtout par rapport à leur... à leur désir sexuel, où ce désir est souvent nié par de leurs proches ou même par des personnes, des travailleurs qui les aident.
Non, c'est sûr qu'il y a un malaise autour de toute la question.
Ouais, mais ce malaise-là vient en partie d'une façon de qu'on les voit souvent comme des enfants, qu'on les voit comme des personnes qui dépendent de nous. Et comme on n'aime pas souvent penser à la sexualité des enfants, on n'aime pas penser à la sexualité des personnes handicapées. Alors voilà, pour certaines personnes, à cause de cette... entre autres de ces visions autour de la sexualité des personnes handicapées, ça peut être très difficile d'avoir accès à une assistance sexuelle. Il y a d'autres raisons, bien sûr, qui peuvent rendre cela difficile, comme le fait que ce service soit considéré comme illégal parce qu'apparenté à la prostitution ou d'autres raisons comme celle-ci. Ce n'est pas le cas dans le film, puisque Rachel travaille dans un état en Australie où la prostitution est décriminalisée.
N'empêche que ça reste une occupation qui est marginalisée.
Oui, elle est marginalisée entre autres parce que pour certaines personnes, ça ne devrait pas du tout exister, ça devrait être totalement aboli. Ça, on les appelle généralement les abolitionnistes. Et les autres pour qui soit ce soit impossible ou que ce ne soit pas désirable d'éliminer le sexe, c'est qu'on les appelle, on les désigne généralement comme les pro-sexe. Et une bonne partie du discours des abolitionnistes tend à reproduire soit des stéréotypes autour des travailleurs du sexe, ou encore à utiliser un langage qui est parfois dur envers ces personnes-là qui peuvent rendre difficile leur
acceptation sociale, tout simplement.
Exactement. Et c'est une chose qui est en partie traitée dans le film, de cette marginalisation-là des travailleurs du sexe que Rachel... a pu vivre de première main.
Oui.
Oui, de première main. Alors, comme on l'a mentionné plus tôt, Rachel, dans son travail, elle allie la défense des droits de ces deux groupes marginalisés-là, qu'on a mentionné, les personnes handicapées et les travailleurs et travailleuses du sexe. Elle le fait entre autres à travers un organisme qu'elle a cofondé, Touching Base. Et on aura l'occasion justement d'en découvrir plus durant le film.
Effectivement, puis suite au film, il y aura la présence d'un conférencier. Cette fois-ci, pour notre dernière représentation, il s'agit de Christian Dufour, qui travaille dans la fonction publique, tout en militant pour les droits des personnes handicapées de longue date.
Et il est lui-même quadriplégique depuis 40 ans maintenant. On lui doit entre autres d'avoir fondé le premier service de transport adapté au Québec, il y a maintenant plusieurs décennies. Et depuis ce temps-là, il a continué de s'investir dans plusieurs organismes de la région de Québec, parce qu'il est originaire d'ici, autant pour les droits des personnes handicapées que des organismes qui offrent des services à ces personnes-là, tels que le transport adapté. Notre invité avait une suggestion pour vous. C'est un autre documentaire, mais celui-ci en français, d'une perspective européenne, dont le titre est « On n'est pas des anges, vie affective, sexualité et handicap ». Alors, ça traite un peu des mêmes sujets, mais d'une perspective différente et moins personnalisée. Moins personnalisée que Scarlet Road, qui est un portrait plus intime, un peu comme notre film qu'on vous présentait la semaine passée, « La guerre de Weeble ».
Oui. Alors, brièvement, avant de passer à la gare de Weibo, on vous rappelle que la représentation sera le 14 avril à l'Amphithéâtre Rideau-Québec au pavillon Alphonse Desjardins. Alors, pour notre film de la semaine dernière, Weibo's War, qui est également, comme Marilus le mentionnait, un portrait intime. Le portrait, en fait, était sur Ludwig Weibo, qui est un résident de l'Alberta, un présumé éco-terroriste faisant partie d'une communauté rurale chrétienne où il vivait en autarcie. Et puis, outre ses occupations au sein de la communauté, il luttait ardemment depuis plusieurs années contre l'industrie gazière et pétrolière.
Comme il n'y a pas eu beaucoup de personnes à la dernière présentation, la partie de la discussion a été annulée. On n'a pas eu notre invité Christian Simard finalement. Toutefois, il y a quand même certains points qu'on vous emmène pour explorer plus loin les enjeux présentés dans le film et aussi la vie des personnes qui étaient le sujet du film.
Oui, donc quelques nouvelles sur Weibo. En fait, comme on vous l'a mentionné dans le dernier podcast, il est décédé à l'âge de 70 ans d'un cancer de l'œsophage. Mais ce qu'on a appris depuis, c'est qu'il n'a pas accepté de se faire traiter pour le cancer. Donc, il a vraiment poussé sa philosophie de vie jusqu'au bout. Dans une entrevue que Weibo a passée au sujet du film portant sur lui, il a mentionné qu'il espérait vivre suffisamment longtemps pour écrire un livre sur son combat. Cependant, il a dit que le livre devrait être publié après sa mort seulement, puisqu'autrement on le mettrait en prison. Donc ça laisse planer le doute un peu sur ses actions.
Et sur sa responsabilité dans les actions dont on a vu dans le film.
Ouais, exact.
Jamais il ne se mouillait vraiment. Par rapport
non,
à ça.
Non, il était extrêmement évasif à chaque fois que les chefs d'accusation étaient mentionnés. Quant à la communauté, elle se porte bien malgré le décès de leur leader. La communauté est rendue à 56 âmes, ce qui est un nombre plutôt large. Elle refuse d'admettre quoi que ce soit au niveau des crimes dont on les accuse et elle refuse de s'excuser pour quoi que ce soit. La famille insiste que n'importe quel acte de sabotage auquel on peut les associer est justifiable de toute façon puisque c'est une question d'autodéfense selon eux. Mais ils n'admettent rien pour autant. Et puis finalement, Boonstra, qui était le cofondateur avec Weibo de cette communauté, disait au sujet de son cofondateur que c'était quelqu'un que les gens méconnaissaient, qu'il était en vérité plein de compassion, impartial, qu'il avait un grand cœur et une grande vision. Et puis il conclut en disant rien de moins que Weibo était un prophète.
En parlant de sabotage et de justification derrière des actions qui peuvent être considérées par une grande partie de la population comme étant très drastiques, il y a tout un débat dans les milieux militants par rapport aux différentes tactiques à adopter pour faire avancer ces causes. On voit dans le film que les actions qui ont été rapportées sont des actions qui sont plutôt directes. On parle de blocage de route, ainsi que de différents actes de vandalisme et de sabotage. Alors, il y a tout un débat sur justement l'acceptabilité de ces actions-là, qui sont plus drastiques, mais pour plusieurs, comme Weibo dans le film nous le disait, pour lui, c'est une des façons qui fait le plus avancer la cause. C'est comme ça qu'il défendait, par exemple, par rapport à d'autres personnes de son milieu qui condamnaient ces actions-là. Lui, il ne les condamnait pas. Il trouvait qu'au contraire, contrairement à bien des gens, ces personnes-là se levaient et faisaient quelque chose.
Oui, et puis il justifiait même les actions en disant que certaines causes valaient la peine de payer un certain prix.
Oui, en effet, il a même dit par rapport... c'est des paroles qui ont été rapportées lors de sa première arrestation. Alors voilà, c'est un sujet que peut-être plusieurs d'entre vous, si vous militez beaucoup dans les milieux, particulièrement, entre autres, si vous avez milité pendant la grève 2012, c'est des sujets qui sont aussi revenus sur l'acceptabilité ou non de gestes comme vandalisme et des actions directes, mais aussi des gestes qui sont moins drastiques, mais qui sont tout de même illégaux, qui sont associés à la désobéissance civile pour que... des gestes qui sont considérés comme trop radicales par certaines personnes et comme... nuisant plus à la cause qu'aidant. Il y a tout un débat autour de ça, mais si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pourriez poursuivre le tout avec une suggestion aussi par rapport justement au mouvement environnementaliste. Il y a trois auteurs qui ont écrit The Deep Green Resistance, un livre sur les différentes stratégies possibles des approches non violentes à Total Guerrilla. Et dans le livre, il traite entre autres des conditions... à réunir pour que ces différentes tactiques réussissent. parce qu'il faut savoir que ce n'est pas nécessairement juste la nature des tactiques qui peuvent compter dans le succès, mais ça peut être aussi les circonstances autour. Alors voilà, si ça vous intéresse, ça peut être une excellente lecture ou un excellent groupe. Ils ont aussi un site internet.
Oui, toutes les références se trouveront bien sûr sur notre billet de blog et sur Facebook aussi, j'imagine.
Oui, il sera publié sur Facebook.
Finalement, une suggestion pour vous si vous voulez approfondir Weibo. Il y a un livre qui porte sur lui sur Amazon qui s'intitule Weibo Ludwig's War Against Big War de Andrew Nikiforuk.
Ah voilà, c'est tout pour notre deuxième émission. Il y en aura une dernière pour la saison qui suivra notre présentation du 14 avril prochain.
Question de faire un bilan. On doit remercier encore une fois Hélène et Lou pour les locaux et l'enregistreuse.
Et on attend toujours vos suggestions et vos commentaires sur les informations que vous aimeriez recevoir et sur les enjeux présentés dans dans notre émission. Merci beaucoup.
À la prochaine.
BZB.